Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. L'association Utopia 56 porte plainte après la mort d'au moins 27 exilés lors d'un naufrage dans la Manche le 24 novembre dernier. Une plainte notamment pour homicide involontaire. Sur cette plainte et sur la politique migratoire de la France, entretien dans votre édition avec François Gémen, chercheur en sciences politiques et spécialiste de la gouvernance des migrations à Sciences Po et à l'Université de Liège. Des manifestations hier au Soudan, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour s'opposer à l'armée au pouvoir depuis le coup d'état militaire du 25 octobre dernier. Des affrontements la nuit dernière à Kasserine en Tunisie, des heurts pour la troisième nuit consécutive entre des jeunes gens du quartier Ennour et les forces de l'ordre. Bâtir une communauté européenne des énergies renouvelables en coopération avec le bassin méditerranéen. La demande du président du groupe Agir Ensemble à l'Assemblée nationale à l'approche de la présidence française de l'Union européenne. Nous écouterons Olivier Becht. Les représentants de 57 pays musulmans s'engagent à débloquer de l'aide humanitaire pour l'Afghanistan. Ces pays ont convenu lors d'un sommet extraordinaire au Pakistan de travailler avec l'ONU pour débloquer des centaines de millions de dollars d'avoirs afghans. Plus d'un quart des bénéficiaires des aides d'urgence du Secours catholique souffrent d'une insécurité alimentaire grave. Un constat de l'association dans son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France. Samuel Prieur, délégué départemental du Secours catholique Nord-Lille, sera l'un de nos invités. Le drame remonte au 24 novembre dernier, la mort d'au moins 27 exilés lors d'un naufrage dans la Manche. Ils tentaient de rejoindre le Royaume-Uni. L'association Utopia 56 porte plainte pour homicide involontaire et omission de porter secours contre le préfet maritime de la Manche, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage et les gardes-côtes britanniques. L'association estime que les victimes qui tentaient de traverser la Manche ont trouvé la mort en dépit des appels adressés aux services de secours anglais et français. D'après la préfecture maritime de la Manche, un navire de pêche français a donné l'alerte le jour du drame après avoir vu plusieurs naufragés à la mer dans les eaux françaises mais à proximité immédiate des eaux anglaises. Sur cette plainte et sur la politique migratoire de la France, entretien avec François Gémen, chercheur en sciences politiques, spécialiste de la gouvernance des migrations à Sciences Po et à l'Université de Liège.
Manifestement, deux des rescapés du naufrage disent qu'ils ont appelé à l'aide d'un côté les gardes-côtes français, de l'autre les gardes-côtes britanniques, et que quelque part les deux pays se sont renvoyés la balle en estimant que c'était à l'autre pays d'intervenir. Et donc moi ce que j'espère de cette plainte, c'est qu'elle permette de faire la lumière d'abord sur ce qui s'est passé exactement et sur les circonstances de ce drame. J'espère aussi qu'elle permettra aussi quelque part de rendre davantage visible ce qui se passe dans la Manche mais aussi en Méditerranée. Et on sait bien qu'il y a des dysfonctionnements, notamment dans les procédures de secours aux embarcations en détresse, particulièrement en Méditerranée. Et puis j'imagine qu'un des buts recherchés dans cette plainte, c'est aussi de mettre les gouvernements face à leurs responsabilités et de pointer que ce n'est pas uniquement la faute des passeurs si des embarcations chavirent, mais qu'il y ait également une véritable responsabilité des gouvernements. Ça, j'avoue que j'ai malheureusement moins d'espoir que cette plainte influe véritablement le cours politique des choses.
Alors justement, comment sortir de cette impasse aujourd'hui ?
Alors, on est dans l'impasse depuis en réalité plus de 20 ans à Calais. Et tant que Calais restera à 35 km des côtes britanniques, eh bien Calais restera un point de passage pour ceux qui désirent demander l'asile au Royaume-Uni ou pour ceux qui désirent simplement passer au Royaume-Uni. Que faire à partir de là ? Je pense qu'il y a d'abord un impératif humanitaire pour éviter que d'autres vies ne soient perdues et que donc il faut mettre en place des voies légales et sûres pour que ceux qui ont des motifs légitimes de rejoindre le Royaume-Uni pour y demander l'asile par exemple puissent le faire, ce sera par ferry ou par train, mais de manière à ce que ces gens ne dépendent plus des passeurs. Et puis dans un deuxième temps, il faudra aussi revoir les accords du Touquet qui d'abord sont politiquement déséquilibrés puisque il prévoit que chaque pays garde la frontière de l'autre, mais qu'il y ait évidemment bien davantage de migrants qui cherchent à passer de la France vers le Royaume-Uni que de Royaume-Uni vers la France. Et ce sont des accords aussi qui violent, à mon sens, le droit international, notamment parce que la France n'a pas le droit d'empêcher quiconque de quitter son territoire en vertu de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la même manière que le Royaume-Uni n'a pas le droit d'empêcher des demandeurs d'asile qui voudraient demander l'asile sur son territoire. Le Royaume-Uni n'a pas le droit de les empêcher de le faire en vertu de la Convention de Genève.
Quels sont les points clés des accords du Touquet ?
C'est un accord de sous-traitance mutuelle, en réalité, qui prévoit que chaque pays la France et l'Angleterre va garder la frontière de l'autre et va donc mettre en œuvre la politique d'asile et d'immigration de l'autre. C'est pour ça que si vous prenez l'Eurostar pour aller à Londres, à la gare du Nord, vous aurez des douaniers britanniques. C'est pour ça que si vous le reprenez dans l'autre sens, de Londres vers Paris, vous aurez des douaniers français à la gare de Saint-Pancras.
Cette politique migratoire, aujourd'hui, notamment en France, y voyez-vous un lien avec une forme de radicalisation du discours de la part d'une frange de la classe politique française?
Certainement, on est dans un cercle vicieux. Aujourd'hui, certains ont tout intérêt à monter en épingle un narratif et un imaginaire de crise, parce que c'est un narratif qui, bien entendu, va pousser une fermeture des frontières de plus en plus grande. Le problème, c'est que c'est précisément cette fermeture des frontières qui crée ces drames et ces crises humanitaires, et donc on est dans une sorte de cercle vicieux dont on ne parvient pas à sortir. Il faut se souvenir aussi que le Royaume-Uni a voté il y a quelques années pour le Brexit, qu'un des arguments clés de la campagne du Brexit, c'était de recouvrer ce qu'ils appelaient la maîtrise de leurs frontières, et donc il est très important pour le gouvernement britannique de donner l'impression que la frontière britannique est devenue infranchissable et que plus personne ne peut venir demander l'asile en Grande-Bretagne. Malheureusement, dans les deux cas, dans les deux camps, on a des manœuvres politiques et les premières victimes de ces petits jeux politiques, ce sont évidemment les migrants, les demandeurs d'asile eux-mêmes.
Vous dénoncez clairement une influence des courants de pensée de l'extrême droite.
Bien entendu, il y a aujourd'hui une certaine forme d'extrême droitisation du discours politique sur le sujet, qui n'est pas juste un effet de discours, mais qui a des conséquences dans les faits, puisque la fermeture des frontières apparaît aujourd'hui comme le seul horizon politique possible.
François Gémen, chercheur en sciences politiques, spécialiste de la gouvernance des migrations à Sciences Po et à l'Université de Liège. Des manifestations hier au Soudan, la police a tiré des grenades lacrymogènes à Khartoum. Une répression pour disperser les dizaines de milliers de manifestants descendus dans la rue pour s'opposer à l'armée, au pouvoir depuis le coup d'état militaire du 25 octobre. Une répression qui a fait plusieurs victimes. Ce 19 décembre correspondait au 3e anniversaire du début de la révolution qui a renversé Omar el-Béchir après 30 ans de pouvoir. Des affrontements ont eu lieu la nuit dernière à Kasserine, en Tunisie. Des heurts pour la troisième nuit consécutive entre des jeunes gens du quartier Ennour et les forces de l'ordre. La Tunisie a été dernièrement le théâtre de plusieurs mouvements de protestation dans la majorité des gouvernorats. Des mouvements sur fond de revendications sociales liées essentiellement au développement et à l'emploi. Cette demande du président du groupe Agir Ensemble à l'Assemblée nationale en France, le député Olivier Becht, plaide pour la création d'une communauté européenne des énergies renouvelables en coopération avec le bassin méditerranéen. Il évoque un rapport gagnant-gagnant entre l'Europe et l'Afrique, le député Olivier Becht.
Le groupe Agir Ensemble adhère évidemment aux priorités telles qu'elles ont été définies par le président de la République. Nous souhaiterions en rajouter une si c'était possible. Nous pensons qu'il serait intéressant aujourd'hui de réfléchir à la création d'une communauté européenne des énergies renouvelables, comme nous l'avions fait d'ailleurs dans les années 1950 avec la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, ou de la communauté de l'énergie atomique. C'était à la base de la construction européenne. Et aujourd'hui, nous savons que si on veut lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, on n'aura pas d'autre choix que de passer par ces énergies renouvelables pour remplacer les énergies fossiles qui sont des énergies carbonées. Et donc, bâtir une communauté européenne des énergies renouvelables, on peut le faire bien sûr à l'échelle de l'Union européenne, mais on peut aussi le faire en coopération avec des pays de la Grande Europe, plus à l'Est. On peut également le faire avec le bassin méditerranéen. On sait que dans le Maghreb, il y a notamment la possibilité de construire de grandes fermes solaires et donc peut-être de construire des autoroutes de l'énergie à travers la Méditerranée pour faire en sorte que le soleil qui irrigue le Maghreb puisse demain alimenter sous forme d'énergie une partie de l'Europe. C'est un rapport gagnant-gagnant entre l'Europe et l'Afrique que nous souhaitons bâtir avec donc cette proposition qui s'inscrit, je pense, également dans les réflexions du président de la République autour d'un New Deal avec l'Afrique pour essayer de construire une nouvelle coopération économique énergétique avec l'Afrique.
Le député Olivier Becht, président du groupe Agir Ensemble à l'Assemblée nationale. Les représentants de 57 pays musulmans s'engagent à débloquer de l'aide humanitaire pour l'Afghanistan. Ces pays ont convenu lors d'un sommet extraordinaire au Pakistan de travailler avec l'ONU pour débloquer des centaines de millions de dollars d'avoirs afghans et créer un fonds de donation. Cette réunion était la première grande conférence sur l'Afghanistan depuis la chute en août de l'ancien gouvernement afghan. migrants. Ce cri d'alarme du Secours catholique, l'association qui vient en aide aux plus démunis, indique dans son dernier rapport annuel sur la pauvreté que la pandémie de Covid-19 et le confinement ont contribué à dégrader le budget, l'alimentation et la santé des plus pauvres. Samuel Prieur, délégué départemental du Secours catholique Nord-Lille.
Ce ne sont pas juste des statistiques issues de recherches ou de livres, mais bien du terrain des 60 000 bénévoles qui agissent en France et qui ont recueilli cette année plus de 40 000 profils de personnes qui nous permettent aujourd'hui de dégager les réalités de la précarité en France et qui nous disent, première chose, c'est que la Covid, on s'en doutait un petit peu, mais aujourd'hui on en a un peu la preuve, aggrave des situations de précarité, notamment pour les personnes seules qui sont assez majoritaires dans l'accueil du Secours catholique et notamment les mères isolées qui aujourd'hui payent le prix. Elles sont 25% à arriver au secours. Ces familles monoparentales payent le prix de la précarité avec des charges qui augmentent, des difficultés de plus en plus importantes et une difficulté à faire face au quotidien. Et c'est ça qu'on rencontre tous les jours au Secours catholique.
Est-ce lié notamment au premier confinement ?
Oui, clairement, puisque les dépenses se sont resserrées. Les familles ont dû faire face d'abord à un isolement fort qui crée des conditions de vie très difficiles. L'entraide est une des moyens de s'en sortir pour les personnes en difficulté. L'entraide a été largement bousculée, voire empêchée par la Covid-19. Mais aujourd'hui, la difficulté, elle naît aussi dans l'augmentation de charges, notamment quand les familles ont dû faire face à l'arrêt des cantines scolaires qui sont souvent à des tarifs avantageux pour les personnes en précarité, et que nourrir les enfants chez eux devenait une difficulté du quotidien. Voilà, donc on a constaté cet appauvrissement, ces difficultés, et un enjeu de trouver les moyens de s'en sortir pour les familles. Et ça, c'est un constat qu'on fait, qui est de plus en plus difficile pour elles.
Et vous indiquez que 3 ménages interrogés sur 10 vous disent avoir subi une perte de revenus.
Oui, c'est ça. Et c'est plus une théorie qu'on pouvait dire quand on était en plein confinement, mais aujourd'hui, une réalité. Le revenu médian des personnes qu'on accueille a baissé. Il est bien en dessous du seuil de pauvreté qui est à 1102 euros. Les personnes qu'on accueille au Secours catholique sont à 537 euros de revenus mensuels. Et en plus, parmi toutes les personnes qu'on accueille, 22% de la part des ménages accueillis sont sans aucune ressource. Donc ça nous inquiète particulièrement.
Alors que beaucoup de ces personnes auraient droit à des ressources, et cette situation est ainsi aggravée par le non-recours aux aides ?
Oui, on le dénonçait très fortement l'année dernière dans le rapport précédent, 30% de non-recours. Cette année, on confirme ce chiffre, il est à peu près à 26%. Donc ça veut dire qu'on sait qu'entre 25% et 30% des personnes qu'on accueille au Secours catholique n'ont pas recours à des aides. Et ça, c'est vraiment très inquiétant, parce que ça veut dire que y a une vraie complexité pour les familles de comprendre, de connaître les droits dont elles ont accès. Et c'est une partie du recours à ces droits pourrait régler des problématiques de pauvreté. Et donc il y a un vrai enjeu à simplifier, à rendre l'accès automatique des droits aux personnes pour que une partie de la précarité elle puisse se résorber par elle-même, parce que c'est le cœur des droits. On parle trop souvent de la fraude aux aides sociales, mais on oublie que s'il y a un vrai coût économisé par l'État sur le non-recours aux aides sociales, et nous on l'affirme et on peut le démontrer par nos études, c'est 30%, c'est entre 25 et 30% des personnes qu'on accompagne.
Et ces aides devraient, selon vous, être fournies automatiquement ? Est-ce l'une des demandes que vous faites à l'approche de la présidentielle ?
À l'approche de la présidentielle et au-delà, puisque on a un peu décidé au Secours catholique que les échéances électorales étaient importantes, mais en même temps, c'est l'action au quotidien et le terrain qui nous importe, et ça veut dire que c'est à la fois demander aux candidats de s'engager, mais aussi à celui ou celle qui sera élu d'appliquer des enjeux. Et donc, on a fait le choix aussi de s'inscrire dans la durée au Secours catholique sur notre action et sur nos demandes pour que ce soit pas juste des promesses, mais des actes en vérité. Et donc, une partie de ces actes, faire tout pour que le non-recours soit réduit au maximum pour les personnes, c'est-à-dire s'impliquer en tant qu'État dans la simplification, dans l'écoute. Et pour nous, ça passe par un truc très très simple, c'est permettre aux personnes qui sont en précarité de s'exprimer et d'accompagner les politiques publiques pour qu'elles répondent réellement aux besoins dont elles expriment. Ce n'est pas dans un bureau à Paris qu'on doit décider de la manière dont on aide les plus pauvres. C'est avec les plus pauvres, en lien avec les associations qui les accompagnent, qu'on doit pouvoir trouver des solutions ensemble.
Samuel Prieur, délégué départemental du Secours catholique Nord-Lille. Le mondial de handball, les Françaises ont perdu en finale face à la Norvège 22-29. Après l'or olympique décroché l'été dernier, les Bleus sont vice-championnes du monde. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient, l'invité de Pluriel à 19h et 23h est Mehdi Ouhari, essayiste et ancien porte-parole de Génération Pluriel, une émission préparée et présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.